Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute du dernier numéro de Vivante Église de la saison avant la coupure des vacances scolaires, puisque Radio Présence passe en grille d'été dès ce lundi. En attendant la longue parenthèse estivale, je vous propose une émission consacrée à la communauté et à la mission maronite de Toulouse. Ils organisent leur journée orientale dimanche 7 juillet à la maison diocésaine du village Filoté. Et j'ai le plaisir de recevoir deux invités pour vous présenter cet événement et plus largement pour faire connaissance avec la communauté maronite de Toulouse, Alexandra Bagdasarian, responsable de la confrérie de Saint-Trafka à Toulouse, et le père Tanios Abouna Tanios, curé de la mission maronite à Toulouse. Bonjour et bienvenue à tous les deux et grand merci d'avoir accepté de participer à cette émission.
Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs de Radio Présence.
Oui, bonjour.
Comme je crains que beaucoup de nos auditeurs n'aient qu'une connaissance très partielle de ce que sont les maronites et leur église, je vais vous demander d'abord de faire un peu d'histoire. On va peut-être pas rentrer dans le grand détail, mais tout de même, quand et où est née l'église maronite et pourquoi porte-t-elle ce nom ?
En fait, les maronites, ils forment la communauté chrétienne du Liban la plus nombreuse. Ils se réclament d'un saint moine anachorète, Maroun, qui est né le 4e siècle à peu près. Donc c'est un personnage historique qui est communément reconnu comme le père spirituel de notre église maronique, syriaque d'Antioche. Et il est le fondateur d'une voie monastique originale, l'anachorétisme, ou la vie en plein air.
Alors c'est un ermite qui vit en plein air,
tout
pour
à
que
fait.
Les gens comprennent bien.
Oui, sans abri, tout à fait. Donc Maroun, il accomplissait par la prière beaucoup de miracles. Et on dit que c'est le premier saint qui accomplit des miracles en étant vivant. Et sa réputation, elle se répandit dans toute la région. Et il y a beaucoup de disciples qui se sont influencés par cela. Et ils ont fondé une maison, Beit Maroun, la maison de Saint Maroun. L'église maronite, elle est chalcédonienne. Donc, elle était fidèle au concile de Chalcédoine. C'est une église qui se rattache à la catholicité et elle est fidèle à l'unité chrétienne. Les maronites sont donc d'avant la conquête islamique et ils se sont répandus dans la Syrie seconde au bord du fleuve l'Oronte, Al-Asi. Donc les disciples de Saint Maroun, ils sont venus au Liban, d'abord en missionnaire, pour convertir les païens au christianisme. En effet, au Liban, il y avait l'Empire romain, donc il y avait beaucoup de païens là-bas. Et les maronites, pour sauvegarder leur foi et leur identité originelle face aux Byzantins, face aux monophysites, face aussi aux musulmans, donc ce peuple, il fut contraint de quitter les lieux et il se réfugia dans la haute montagne du Liban, donc à la vallée sainte, Kadisha, donc beaucoup de grottes où ce peuple, ces moines, ils se sont réfugiés dans cette région-là. Donc, les maronites, ils ont joué un rôle de pionniers au Liban. Donc, ils ont joué un rôle considérable dans la formation d'un Liban indépendant, animé par un sens de liberté et de fierté. On voit donc aussi la première imprimerie arabe de tout le Moyen-Orient vit le jour au monastère de Kusheya, donc dans la vallée sainte. Donc, c'était la première imprimerie arabe. C'était en an 1610. Et aussi la première grammaire syriaque en latin a été imprimée en Europe en 1596. Fut celle du futur patriarche, Georges Amira. Et aussi le premier livre arabe sorti de la propagande en 1627 fut le catéchisme de Bellarmine, traduit par Jean Al-Asrouni. Donc on voit comment cette église a joué un rôle très important au Moyen-Orient.
Une chose aussi importante sur laquelle il faut qu'on revienne, en 1054, il y a le grand schisme entre les églises d'Orient et d'Occident, et l'église maronite va être la seule de toutes les églises orientales qui va s'unir entièrement à Rome.
Oui, en fait, comme vous l'avez dit, c'est la seule église orientale qui a été toujours fidèle à Rome. Donc elle est en communion avec son évêque, qui est le pape de Rome. Et cela, c'est avec l'arrivée des croisades en 1099, que les maronites sortent de leur isolement et renouent les relations avec l'Occident et avec Rome. Donc, ces relations empêchées sous la domination des Mamelouks vont reprendre des plus belles au milieu du XVe siècle et ils s'intensifient sous le régime ottoman avec le soutien des rois de France. Donc la France, elle a joué un grand rôle donc, à soutenir les maronites du Liban. Et ces relations, elles se maintinrent grâce aux missionnaires franciscains d'abord, puis avec les jésuites, les capucins, les carmes, les lazaristes et différents ordres religieux féminins ensuite.
Ce qu'il faut dire, c'est que l'Église donc maronite est complètement catholique depuis le XIe siècle.
On est 100% catholique.
Voilà. Il n'y a pas d'Église maronite orthodoxe, hein. Faut être clair là-dessus.
Oui, on n'a pas la branche orthodoxe.
En revanche, ce qu'il faut maintenant que l'on précise un peu, c'est le rite de l'Église maronite. Est-ce qu'il faut dire qu'il est orthodoxe, qu'il est byzantin, ou c'est un rite vraiment spécifique qui a ses particularités et qu'on le retrouve nulle part ailleurs?
Donc, comme vous l'avez dit, c'est un rite spécifique. Donc, les maronites sont une population rurale qui utilisait le syriaque comme la langue liturgique. Le syriaque, c'est la langue fille de l'araméenne, mais aussi ils utilisaient l'arabe. Donc, le rite maronite, il appartient à la tradition d'Antioche, tradition caractérisée par une fidélité à ses sources scripturaires et ses sources juives. Aussi, elle est caractérisée par une ouverture sur le mystère de l'inconnaissable divin qui se révèle en Jésus, Dieu sauveur. Donc, on voit que l'hymnodie y occupe une place de premier plan dans toutes les célébrations. Et les célébrations, en fait, y revêtent un tissu poétique qui aide toujours les participants à savourer les mystères. Donc la liturgie maronite s'apprend aussi aux liturgies syro-orientales et la principale prière eucharistique, c'est celle dite de Saint-Jacques. En fait, quand vous allez à l'église maronite, vous remarquez que le rite du pardon est beaucoup plus développé lors de la messe. Aussi, c'est un dialogue qui est très marqué. Beaucoup les Français qui viennent ici à la messe maronite de Toulouse, ils me disent, Pertagnos, il y a un dialogue entre le prêtre, le célébrant, et entre la communauté. Et il y a beaucoup de chants, donc il y a beaucoup d'hymnes. Et il y a une grande insistance sur la réalité trinitaire. C'est très présent. Et aussi, donc, beaucoup d'expressions trinitaires. Aussi, la place de l'Esprit-Saint est très ancrée. L'épiclèse, l'effusion de l'Esprit-Saint, donc on la voit très, très présent dans la liturgie maronite. Aussi, donc, la langue syriaque, la fille de l'araméen, les paroles de consécration, elles sont dites toujours en langue syriaque. Et ça, c'est une particularité de l'église maronite. Dans cette église, les prêtres peuvent être mariés, mais avant d'être ordonnés. Mais un évêque, sûrement, ne peut pas être marié. Donc, il faut bien préciser cela.
C'est le cas aussi chez les Melkites, par exemple. Les prêtres peuvent être mariés.
En fait, chez les églises orientales, les prêtres peuvent se marier, mais avant d'être ordonnés. Donc, même avant d'être diacre, car le diaconat, c'est le premier ministère dans l'église. Donc, toujours le sacrement du sacerdoce ne peut pas s'avancer sur le sacrement de mariage.
Une autre particularité de l'église maronite, c'est qu'elle a un patriarche.
Tout à fait.
Le patriarche d'Antioche, des maronites. Aujourd'hui, qui est-ce? C'est le 77e.
C'est le 77e patriarche de l'église maronite. C'est Béchara Boutrous Ar-Ra'i qui est le patriarche. Donc, il est le chef de l'église maronite. Donc, il est le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient. Et son siège, il est au Liban, à Kerké. Donc, c'est une région proche de Jounieh, de Harissa, Notre-Dame de Harissa, qui est très connue ici en France.
Et il est cardinal?
Béchara, il est aussi un cardinal, donc il fait partie des conclaves des cardinaux à Rome.
Qui élise le pape.
Tout à fait. Et puis, il est un parmi les premiers, premier parmi les premiers. Car cette fidélité de l'église maronite à Rome a mené à que le patriarche de maronite, comment dire, il précède les autres cardinaux.
Il y a une chose que j'ai apprise, je l'ignorais, c'est que tous les patriarches portent le prénom Boutros. Ça, c'est obligatoire.
Tout à fait.
C'est Pierre. Expliquez-nous pourquoi.
Donc, c'est la fidélité au pionnier de
à l'apôtre.
À l'apôtre Saint-Pierre.
Maintenant, parlons de l'organisation de l'église maronite au Liban et dans le monde. Combien y a-t-il de chrétiens maronites au Liban actuellement et dans le monde?
En fait, les maronites au Liban, il y a 800 000 fidèles à peu près. Ils constituent la plus grande communauté chrétienne du pays. Et il y a une grande diaspora de 3 millions de personnes à peu près dans le monde. Les chiffres sont plus ou moins exacts.
Alors, il y en a une partie en Europe, notamment en France, mais il y en a beaucoup, je crois, En Amérique du Nord et en Amérique du Sud.
Tout à fait. En Brésil, il y a une grande communauté. En France, on est à peu près 85 000 maronites qui sont principalement arrivés au XXe siècle. Donc après la guerre et récemment après l'explosion de Beyrouth et la crise économique, on voit un afflux des Libanais, des chrétiens du Liban qui sont venus ici en France pour fuir la situation du pays.
L'église maronite, c'est 23 diocèses, je crois, au Liban aujourd'hui.
Tout à fait. L'église maronite au Liban, elle est divisée en plusieurs éparchies. Éparchie, donc, c'est un peu diocèse ici.
C'est l'équivalent du diocèse.
L'équivalent du diocèse. Et chaque diocèse, elle est dirigée par un évêque. Parmi les principales éparchies, donc, on trouve Beyrouth, Jbeil, Tripoli, Batroun, Jounieh, Sarba, Tyr, Sidon, Jebbe, Baalbek et bien d'autres. Et chaque éparchie, chaque diocèse est subdivisée en paroisses. Et comme ici, chacune est dirigée par un prêtre. Donc, les paroisses servent les communautés locales et sont le lieu principal de la vie religieuse et fidèle. En fait, donc, on est très attaché à l'Église. On est très attaché à l'image du prêtre au Liban. Surtout au Liban, qu'on n'a pas le mariage civil. On n'a que le mariage religieux.
D'accord. Oui,
donc,
important.
Oui, on n'a pas le mariage civil. Il n'y a pas loi 1901.
Lorsqu'on est marié au Liban, c'est parce qu'on a été marié à l'église et nulle part ailleurs.
Oui, ou si on est d'autres
Alors,
rites musulmans,
pays, oui.
Ou si on est de rites musulmans, donc si on est de religion musulmane, on se marie chez l'imam. Donc selon chacun sa confession.
On est toujours marié religieusement.
Oui, on est marié.
L'équivalent du mariage civil.
C'est un pays confessionnel, donc il n'y a pas séparation de l'église et de l'État. À la diaspora, l'église maronite, elle est aussi organisée en éparchie et en exarchat. En exarchat, donc, c'est une éparchie qui est en train de se constituer. Donc, elle n'est pas encore... En cours de formation. Donc, on trouve des éparchies maronites dans divers pays. En États-Unis, au Brésil, Mexique, en Argentine.
En Australie aussi, je crois.
Et en Australie, oui. Et récemment, donc, en France. Donc, l'éparchie maronite de France date de 10 ou 12 ans à peu près. Et chaque éparchie à l'étranger fonctionne de manière similaire à celle du Liban, sous la direction d'un évêque. En France, donc, l'évêque des Maronites, son siège est à Paris, avec la cathédrale Notre-Dame du Liban à Paris, et lui, il dirige l'éparchie maronite de France, donc c'est comme un diocèse, mais qui est sur toute la France. Et puis, on a aussi les instituts religieux. L'église maronite compte 10 instituts religieux, dont 4 masculins et 6 féminins. Donc, il y a plusieurs ordres, l'ordre mariamite, l'ordre maronite mariamite. On a aussi le fameux ordre libanais maronite qui est illustré par le grand saint thaumaturge Saint Charbel, donc qui est fondé en 1695. On a aussi l'ordre antonin maronite et on a plusieurs congrégations comme les congrégations des missionnaires libanais maronites et d'autres congrégations et instituts religieux masculins et féminins.
Une question que doivent se poser quand même nos auditeurs, c'est la situation actuelle des chrétiens maronites au Liban, et peut-être des chrétiens en général d'ailleurs. Comment ça se passe, la cohabitation avec les autres religions du pays aujourd'hui?
En fait, la situation actuelle des chrétiens maronites au Liban, elle est complexe. Elle est influencée par divers facteurs politiques, sociaux, économiques et religieux. La population maronite a diminué en pourcentage au fil des décennies.
Elle a diminué parce que beaucoup de maronites libanais ont quitté le pays.
Donc c'est en raison de l'émigration et aussi en raison des taux de natalité qui sont plus faibles et qui sont comparés à d'autres communautés. En fait, le Liban, il est régi par un système confessionnel qui est vraiment unique en son genre, basé sur des accords de partage de pouvoir entre les différentes communautés religieuses. C'est le seul pays arabe que son président est toujours un chrétien maronite, tandis que le premier ministre, il est un musulman sunnite, et le président du parlement est un musulman chiite.
Donc il y a partage du pouvoir entre les religions.
Oui, donc ce système, il vise à assurer une représentation équilibrée entre les différentes confessions, mais on ne peut pas nier qu'il y a souvent ce système, il est source de
conflits,
tensions
de conflits,
et de conflits.
Oui.
Et il y a pas mal donc des relations qui sont un peu variées, fluctuantes entre les maronites et d'autres confessions. Il existe des alliances politiques et des tensions entre les différentes confessions dans ce pays et qui sont souvent influencées par des facteurs régionaux et internationaux.
Il suffit de penser à ce qui se passe actuellement en Israël, votre voisin. pour imaginer que la situation ne doit pas être très facile non plus au Liban, forcément.
Oui, tout à fait. Donc, les tensions régionales, notamment en Syrie, notamment maintenant entre Hamas et Israël, ont des répercussions sur la stabilité intérieure du Liban. Donc, ils influencent aussi les relations intercommunautaires. La guerre entre Israël et Hamas nous a conduit à subir un état de guerre entre Hezbollah et Israël. Le sud, maintenant, est bombardé continuellement. Ce qui a poussé les gens de là-bas, du sud, donc, à se réfugier à Beyrouth et au nord. Le pays vit, donc, il est instable en ce moment.
Toute la région est instable, l'intérieur du Liban aussi, bien sûr.
Tout à fait. Mais on est toujours habitué à la guerre.
Oui, c'est terrible à dire, mais effectivement...
Oui, donc, les souffrances, les drames qu'on subisse sont devenus, comment dire, le pain de vie.
Le quotidien.
Le quotidien. Oui. Mais ce qui caractérise les chrétiens d'Orient, les maronites, ils sont toujours à faire cette expérience de vivre ensemble. Et c'est ça une caractéristique. On aime la vie, on est un pays qui aime le sens. On a le sens de vivre et on a le sens de vivre ensemble. Et ça, c'est une caractéristique. C'est pourquoi le pape Jean-Paul II, il a dit, le Liban, c'est plus qu'un pays, c'est un message. C'est un message de cohabitation entre différentes confessions.
Oui, parce que c'est un pays multiconfessionnel, mais il y a quand même ce qui vous rassemble tout, je pense, c'est la culture orientale, c'est l'âme orientale.
Tout à fait. L'âme de vivre, l'âme de se donner, l'âme du sacrifice, l'âme d'aller vers l'autre. L'hospitalité, c'est très caractéristique du peuple du Moyen-Orient.
On va en rester là, on pourrait en parler bien sûr encore très longtemps, mais bon, après cette présentation, j'espère que nos auditeurs auront maintenant une bonne vision d'ensemble de ce que sont l'Église maronite et la communauté maronite de par le monde, au Liban en particulier, bien sûr. Nous allons faire maintenant la pause habituelle à mi-émission, et puis nous allons nous retrouver ensuite avec Alexandra Bagdasarian et le père Tanios. En attendant, nous allons écouter sœur Marie Kérouz qui chante Amamaka, un extrait de son CD Psaume pour le troisième millénaire.
Lebe ich dich, wenn
présence. Vivante Église, Éric Dupri.
Nous sommes de retour à l'antenne. Je suis toujours en compagnie d'Alexandra Bagdasarian, responsable de la confrérie de Saint-Trafka à Toulouse, et du père Tanios, Abouna Tanios, curé de la mission maronite à Toulouse. Avant qu'on parle du programme de la journée orientale du 7 juillet au village Filoté, je me demandais combien il y avait de chrétiens maronites à Toulouse. La communauté maronite de Toulouse, c'est quoi? C'est 1000 personnes à peu près?
Oui, à peu près 1000 personnes.
À peu près, c'est 1000 personnes.
Donc c'est quand même une communauté importante.
Importante. Hein. Surtout depuis justement la récente émigration due aux problèmes financiers, à l'explosion et puis à l'économie complètement...
Atone.
Exactement, atone.
Au Liban.
Donc en ce moment, Père Tanios s'occupe. On a reçu en tout et pour tout depuis 3-4 ans 400 jeunes étudiants quand même.
Justement, j'allais vous poser la question. Il y a beaucoup de jeunes, je suppose, beaucoup d'étudiants parmi la communauté maronite toulousaine.
Et oui, la majorité est jeune. Il y a quelques familles, mais la majorité de ceux qui sont arrivés sont plutôt des étudiants très jeunes.
Est-ce qu'il y en a beaucoup qui après restent à Toulouse, qui font leurs études, mais après restent, ou est-ce que certains essayent de revenir tout de même au Liban pour retrouver leur famille, leurs amis?
Le problème, tous, ils veulent rester. Mmh. Donc, je ne veux pas exagérer, mais quant à la situation au Liban qui se dégrade jour en jour, donc la plupart d'eux, ils me disent, Père Tanios, on va rester là. Qu'est-ce qu'on va revenir? Mais Madame Aleka aussi, d'autres personnes, toujours, ils les encouragent à revenir. Ils leur ont dit toujours, vous êtes venus là pour suivre vos études, mais il faut revenir construire le pays. Mmh. Mais c'est difficile pour eux. Donc, comment dire, il faut les comprendre et en même temps, pauvre Peggy qui a perdu vraiment sa jeunesse.
Et oui, c'est terrible, c'est la mort d'un pays tout de même, lorsque les jeunes sont obligés de le quitter et qu'ils ne peuvent pas y revenir. Parce que parfois, ils le quittent dans l'espoir d'y revenir, mais bon, apparemment, pour beaucoup d'entre eux, il
n'est
plus trop question, malheureusement, de pouvoir rentrer. Les messes à Toulouse sont célébrées où? C'est l'église Saint-François d'Assise. Où est-elle située? Bon, moi, je le sais, mais beaucoup de gens ne le savent pas.
Saint-François d'Assise, qui est à l'avenue Camille Pujol. 106 avenue Camille Pujol, juste en face du Caouzou.
Oui, c'est voilà, en face du Caouzou, effectivement, pour ceux qui connaissent un peu cette zone à Toulouse.
En été, c'est à 18h, horaire d'été, et l'horaire d'hiver, elle est à 17h.
Une chose que l'on n'a pas dite, c'est que, vont aux messes à l'église Saint-François d'Assise, évidemment, les maronites de Toulouse, mais pas seulement, la plupart des chrétiens orientaux assistent à des offices de l'église maronite à Toulouse.
Donc oui, donc en fait, je suis prêtre maronite, mais ce n'est pas seulement les maronites qui viennent à cette messe. Il y a les différents rites, donc les chaldéens, les assyriens, d'origine irakienne. Il y a aussi beaucoup de syriaques orthodoxes, syriaques catholiques, aussi d'origine syrienne, comme d'origine irakienne. On a les coptes d'Égypte. Donc, comment dire, c'est une messe où il y a œcuménique, si on veut bien...
Multiconfessionnel, on peut reprendre le mot.
Tout à fait. Donc, et il y a pas mal aussi de Français, des Européens qui viennent un peu pour découvrir liturgie.
Et vos offices.
Voilà. Et ce qui est un peu aussi marquant aussi, qu'il y a pas mal de musulmans qui viennent aussi à cette messe. Et ça, c'est très particulier. Vu aussi que quand on parle de musulmans, il faut bien préciser de quel musulman s'agit-il.
Parce que là aussi, c'est multiple.
C'est multiple. Et surtout que les musulmans libanais, ils sont les musulmans un peu plus ouverts que les autres. Vu la présence des chrétiens, la cohabitation entre les chrétiens et les musulmans au Liban, ça peut les aider, comment dire, à venir, à se retrouver entre eux. Donc, c'est le besoin aussi de se retrouver. C'est un besoin aussi
entre
de connaître...
Libanais,
Et puis de retrouver un peu l'air du pays.
L'air du pays, la langue, la culture, tout ça.
Tu te souviens, il y a une dame, le jour des rameaux, elle est venue en disant, je veux juste retrouver les processions qu'on faisait. Elle est musulmane. Elle est venue avec son fils, elle a pris un cierge pour faire juste la procession autour de l'église. Juste pour retrouver comme ça cet air du Liban.
Je crois que les chrétiens au Liban ont toujours eu, notamment les maronites, ont toujours eu un rôle un peu apaisant entre les différentes communautés existantes dans ce pays, notamment entre les communautés musulmanes, entre chiites, sunnites, druzes. Il y a ce rôle aussi, je pense, que jouent les chrétiens encore aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'ils aiment revenir assister à des offices de l'église maronite à Toulouse.
Oui, absolument. C'est ce qu'a dit tout à l'heure le père Tagno, c'est-à-dire que c'est aussi une église ouverte à tous les autres Libanais.
On va parler maintenant des activités et des actions de la mission maronite de Toulouse le reste de l'année avant cette journée orientale. Qu'est-ce que vous proposez en dehors des messes à l'église Saint-François d'Assise, notamment à travers la confrérie de Saint-Trafka?
Alors la confrérie, c'est quelque chose de très habituel au Liban. En général, les paroisses, à chaque paroisse à peu près, a sa propre confrérie. Donc celle-là, on l'a appelée la confrérie Saint-Trafka. Elle a un rôle spirituel, elle a un rôle social. Spirituel, par exemple, on récite le chapelet avant la messe régulièrement. On peut aussi, à la demande de certaines personnes, les assister en fin de vie dans les hôpitaux, aider leur famille, la famille autour d'eux. Et puis elle a donc un rôle plus social, on va dire. Et actuellement, on a été très présents au niveau des étudiants qui viennent et qui se retrouvent seuls. On a accueilli des fois des jeunes qui sortaient carrément du baccalauréat. Donc, ils sont arrivés à l'âge de 17-18 ans.
Oui, donc, ce sont quasiment encore très jeunes adolescents.
Voilà, des
quoi.
Petits. Donc, on a des contacts réguliers avec les mamans qui pleurent au téléphone, comment va mon fils ou ma fille. Et on a institué comme des parrainages entre des dames et donc ces jeunes. Ça, on est plus à l'écoute de certains, ils peuvent nous joindre quand ils veulent, etc. On organise des repas pour eux, etc.
Quelle relation vous entretenez avec le diocèse et les autres confessions chrétiennes à Toulouse? Vous êtes vraiment pleinement intégré dans la vie du diocèse toulousain?
Ça, je tiens beaucoup à ce que vous avez dit, c'est d'être intégré ici. Premièrement, donc, on n'est pas là pour faire un ghetto arabe, entre guillemets. Donc, notre mission, on est reçu ici par le diocèse de Toulouse, par Monseigneur de Kerimel. Et notre rôle ici, donc de jouer ce rôle-là, d'être un peu la voix des chrétiens d'Orient ici à Toulouse, et d'être aussi, comment dire, présent sur le diocèse pour connaître notre rite, notre façon de penser, notre culture.
Votre rapport à la foi,
notre rapport à
Dieu,
à la foi,
au Christ.
Tout à fait. Et de s'enrichir aussi de la communauté ici, présente, donc des catholiques qui sont présents là. Donc ce sont les deux poumons de l'Église, orientale et occidentale, qui s'enrichissent mutuellement. Et moi, je tiens beaucoup à celui-là, donc avec la paroisse étudiante, avec le père Damien Verlet. Donc on est présent, je dis parfois des messes maronites dans différents établissements scolaires, donc qui veulent que leurs élèves connaissent qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas seulement en Occident, et qu'il y a des chrétiens aussi qui parlent la langue arabe, car vous savez, il y a cette mentalité ici qui dit un peu arabe, dit musulman.
Et oui.
Oui, donc il y a une certaine généralisation.
Mais un donc, arabe n'est pas forcément musulman, et un musulman n'est pas forcément arabe.
Un arabe, c'est ça. Je dis des messes aussi donc dans différentes régions de Toulouse, dans différentes paroisses, pour un peu faire connaître notre rite maronite, pour faire connaître qui sont les chrétiens d'Orient, et vraiment pour que les gens, ils aient ce contact direct, cette simplicité de la rencontre avec les chrétiens d'Orient. On parle toujours des chrétiens d'Orient, on va aider les chrétiens d'Orient. Ici, c'est une occasion de rencontrer les chrétiens d'Orient. Et la relation ne se fait que par la rencontre, par les choses très simples, par parfois le sourire d'un étudiant aux fidèles durant une messe ici. Et j'ai confiance en ça et je crois en ça. Et comme ça, on peut, comment dire, concrétiser la relation, la prière pour le chrétien d'Orient. Elle se concrétise par la rencontre.
Je voulais juste aussi rajouter quelque chose du rôle de la confrérie. On a parlé surtout de sa place au niveau des étudiants, mais c'est aussi faire attention à ce que dans la communauté orientale, il y a des familles, par exemple, qui sont isolées, qui viennent du Liban ou d'autres, de l'Irak ou de Syrie. Donc faire attention à ce qu'aucun membre de la communauté ne se sente isolé.
Mais c'est pour ça que le père Tagnos parlait d'intégration.
C'est exactement.
Votre rôle, je pense, c'est d'abord
voilà,
celui-ci.
Voilà, c'est les étudiants et puis c'est les différents membres de la communauté.
La journée orientale est donc organisée par la mission maronite le dimanche 7 juillet à Toulouse, à la maison diocésaine du village Filoté. Ça commence à midi et ça va se poursuivre jusqu'à 23h30. Alors, ce n'est pas la première, hein, c'est la deuxième. Hein.
Voilà, c'est
la... L'expérience de l'an dernier, vous l'avez réitérée parce qu'apparemment, ça a eu beaucoup de succès.
Exactement. On va appeler ça la deuxième journée orientale de Toulouse. Elle a une particularité, c'est que c'est une journée, on peut appeler ça familiale. Elle est ouverte à...
Tout le monde peut y aller, hein, vraiment que
tout
les
le monde,
gens qui nous écoutent.
Grand, bien exactement.
Ils ont envie d'y aller, ils peuvent y aller, tout le monde peut y aller, c'est ouvert au public. Et puis donc c'est dans un lieu que la plupart des chrétiens à Toulouse connaissent, je pense, donc le village Filoté. L'objectif de la journée, je reprends ce que vous venez de dire, c'est la rencontre. Et puis de faire découvrir aussi ce qu'est la culture des maronites et des chrétiens
orientaux. Des chrétiens, exactement, c'est ça. Donc c'est une journée aussi qui est, comme on disait, ouverte vers la rencontre des Français, des différentes communautés de Toulouse. Ça va démarrer vers midi, on va dire, midi. Et donc on va les accueillir avec un rafraîchissement oriental, on va dire.
Alors, qu'est-ce que c'est, un rafraîchissement oriental? Mettez-nous l'eau à la bouche.
Ça peut être un sirop à l'eau de rose, une limonade avec de l'eau de rose ou de l'eau d'oranger, des fruits du pays, on va dire.
Donc, l'eau de rose, apparemment, au Liban, c'est quelque chose...
L'eau de rose et l'eau de fleur d'orange.
Un peu national.
Voilà, les deux.
La suite?
Alors, la suite, il y a plusieurs stands. D'abord, on peut aussi prendre une photo, un peu souvenir, avec un décor oriental, pour ceux qui sont intéressés. Il va y avoir deux choses simultanément. On va commencer un repas. Le repas, c'est ce qu'on appelait chez nous le sage. C'est-à-dire, ce sont des galettes avec du za'atar qui commence à être très connu en France. C'est un mélange de thym qu'on chauffe sur une espèce de tôle. Ça peut être donc à ça ou avec du fromage. C'est comme des crêpes, mais avec une pâte particulière.
Il y a des fromages libanais. Il y a vraiment des fromages libanais, ça existe.
Il y a du fromage. Il y a 7 fromages libanais, en fait.
Ah, d'accord.
Pas les 365 qu'on connaît en France.
C'est des fromages de chèvre, de brebis.
Brebis, même chèvre.
Il y a un fromage de chèvre, de brebis, de vache.
Voilà.
D'accord. Il y aura une messe, je suppose.
Alors, avant la messe, qui va avoir lieu un peu plus tard, il va y avoir plusieurs stands. Donc, il y aura un coin spécial pour les enfants, une petite kermesse particulière pour les enfants, avec un moment de conte aussi, pour ceux qui veulent.
Des contes, il y a quelqu'un
voilà,
qui va venir réciter
qui va
des
venir
contes,
raconter
des contes orientaux.
Une histoire.
Ce sont des contes orientaux.
Tout à fait. Donc, comme elle a dit Mme Bagdasarian, donc on va commencer par le repas. Après, c'est la journée familiale. Il y a donc des ateliers pour les gens, pour les adultes. Donc,
qu'est-ce que c'est ces ateliers? Ce sont des lectures?
Il y a un coin, par exemple, pour un jeu d'échecs, un jeu de backgammon qu'on appelle chez nous taolé ou le tric-trac. Il va y avoir aussi un coin de danse orientale pour celles qui veulent apprendre à danser à l'oriental. Une petite compétition ou comment apprendre à faire un taboulé, par exemple.
Ah, donc il y a une partie atelier cuisine.
Ça peut être atelier cuisine, atelier danse, atelier jeu pour les adultes.
Jeux de société.
Voilà, des jeux de société. Il y aura un coin bras de fer.
Ah bon?
Voilà.
Ah, c'est que c'est une activité très prisée au
très
Liban, le bras de fer.
Oui.
Mais c'est pour ça que le Père Tagnos, il a des bras solides.
Il arrive à supporter tout. En fait, il faut imaginer une grande place. C'est pour ça qu'on appelle ça « Rejoignez-nous sur la place du village ». Voilà ce qui se passe pendant une fête au Liban.
Et donc, il y aura la messe en fin d'après-midi, c'est ça?
Non, c'est à 19h.
À 19h.
En rythme maronite.
Le rythme maronite.
Mais c'est en français.
Sur place, ce sera sur place.
Sur place, oui. Car la vie quotidienne, la vie communautaire, toujours, elle se fait autour de l'église au Liban. Donc, les moments de joie et les moments de deuil, c'est toujours autour de l'église. C'est pour cela qu'on a conçu ce concept, le village. En diaspora, donc toujours on pense à notre village. Toujours ça revient dans notre tête, le village. C'est pour cela qu'on a mis en place le village oriental, l'église, donc la place de l'église, si vous voulez. Et dans cette place de l'église, où il va y avoir la messe maronite à 19h.
La messe à 19h, et puis après, il y a une grande soirée orientale.
Exactement. Alors, soirée orientale, toujours de quoi se nourrir, se sustenter.
Ça, c'est important.
Voilà, c'est important.
Les orientaux, en général, on aime bien manger et on mange bien.
C'est surtout la gastronomie libanaise.
Voilà. Bonne chose. Et bien, c'est pas
qui
pour
est
rien
très
connu. Il y a des restaurants libanais en France. Voilà. Ils sont souvent très prisés.
Donc ça va être des grillades le soir. Mmh. Et il y aura aussi un genre de menu, comme ça, avec un repas tout préparé pour ceux qui veulent varier un peu la nourriture.
Oui, c'est le midi. Donc, le midi, il y a les galettes, comme vous l'avez dit.
Voilà.
Et le midi aussi, il y a des plats.
Des plats,
donc, des mezzés, tout ça. Tandis que le soir, il y a le barbecue avec toutes les...
Les
grillades, marinades.
À
l'irakienne, à la libanaise.
Là, on voyage en plus.
Voilà, on voyage,
oui.
Absolument.
On voyage à travers l'Orient.
Voilà. Et toute l'après-midi, il y aura un coin buvette. Pour ceux qui ont envie d'un café, d'une petite bière, de l'eau, d'un sirop.
Et surtout qu'il commence à faire chaud.
Il va faire chaud, hein, voilà. Donc, on a prévu tout ça.
Il faut prévoir, je pense, la buvette, effectivement. Donc, je le répète, l'entrée est gratuite. C'est ouvert à tous.
Tout le monde peut y aller. Sauf la nourriture.
Bah, après, la nourriture, évidemment, bien sûr. Je veux dire, l'entrée du village
voilà,
va être
bien
gratuite.
Sûr, c'est
gratuite. Après, bon, sur place, évidemment, si on veut consommer, il faut payer. On peut se renseigner. Il y a un numéro de téléphone pour ceux qui voudraient se renseigner.
Donc, c'est le mien, au 06 20. 32 23 68. C'est donc Alexandra Bagdasarian.
Alexandra Bagdasarian au 06 20 32 23 68.
Alors la soirée comprend aussi elle-même des danses folkloriques, la fameuse dabe qui est de chez nous. Il y aura une espèce de joute entre deux personnes sur le plan des poètes, des poèmes, etc. Et il y aura aussi
des chants
par la chorale. Et puis des chants en soliste aussi.
Et cette année, on a une intervention de la communauté arménienne qui vont venir et qui vont donc chanter
présenter
ou danser.
Danse,
donc on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils nous laissent une surprise. Et aussi, on a après donc ce qu'on appelle une zafé libanaise avec tous les tambours, avec tout ça. Donc ça va être...
Des percussions.
Les percussions voilà. Donc comme on fait au Liban. Donc c'est vraiment une soirée époustouflante.
Mais ceux qui veulent s'immerger vraiment dans la vie à l'orientale et la fête à l'orientale aussi, parce que c'est ça. Il faut y aller. Encore une fois, merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de ce numéro. Merci d'en avoir été les invités. Je rappelle que la journée orientale organisée par la Mission Maronite de Toulouse a lieu le dimanche 7 juillet de midi à 23h30 à la maison diocésaine du village Filoté. Pour vous renseigner, vous pouvez donc appeler le 06 20 32 23 68, 06 20 32 23 68. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Merci à tous de votre fidélité à cette émission tout au long de l'année. On se retrouve maintenant à la rentrée. Très bon été et excellentes vacances à tous.